Au commencement, il n'y avait que le néant. Puis, le Big Bang créa l'univers. Mais après plusieurs milliards d'années, de mystérieuses ondes bouleversent l'ordre. Au fin fond de la galaxie, oui, juste un peu à droite, là, le chaos reprend sa source dans Big Bang Station, le mercredi, sur IDFM Radio. Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de Big Bang
Station.
Après la pluie, le beau temps, c'est le slogan de cette émission. Nous sommes sur IDFM Radio tous les mercredis jusqu'à 22h sur les
48 et 20 minutes par ailleurs.
En Ile-de-France et en DAB+, nulle part ailleurs, si.
Enfin, je veux dire plein de radios par la suite, mais bien cette fréquence que j'entendais parler.
Et sur Facebook, Instagram, X, Internet, Android, encore Spotify, Google Podcast, Radio Public, au choix sur notre pas, notre con, notre site, notre appli, Big Bang
Station.
Big Bang Station, c'est depuis 1997 un thème d'actualité sur lequel des chroniqueurs histoire, juridique, bien-être, musique, culture, pop collent le plus possible. Aujourd'hui, nous parlerons de
météo.
Petit Manu reviendra sur les premières observations du temps jusqu'à la naissance de la météo.
Exactement, parce que est-ce que vous savez, ça existe depuis la fin des temps, mais on a une vague idée. Moi, je vous dirai ce qu'il faut savoir. Toulou, vous aurez une meilleure idée. Bonjour à tous.
Marie-Christine nous fera un point sur les droits et obligations professionnelles face aux aléas de la météo.
Oui, tempête, canicule, votre patron peut-il vous forcer à braver tous ces éléments? Je vais vous répondre.
Comment arrive-t-on à prévoir le temps? Patrick Gallois, prévisionniste à Météo France, répondra à cette question notamment. Ponari nous parlera de notre météo intérieure.
Salut Didier, salut à tous. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir comment le temps qui nous entoure peut réellement influencer notre humeur, notre énergie et notre bien-être au quotidien. A tout de suite.
Et pour notre page culture, Kevin nous proposera un quiz des chansons qui parlent de météo. Il y en a?
Oui, il y en a quelques-unes. Salut Didier, salut à toutes et à tous. Et bien qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, la météo a aussi inspiré les artistes pour leurs titres de chansons. Lesquels? Eh bien, nous allons le découvrir tout à l'heure.
Eric nous parlera de catastrophes météorologiques dans la pop culture.
Salut Didier et salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous emmener faire une petite promenade, météorologique à travers des blockbusters qui nous annoncent certaines catastrophes de la météo. A tout de suite dans la chronique.
Et mesdames et messieurs, malgré nos mains de velours, faut savoir, celui qui pose des bonnes questions, clair, net et précis, eh ben on est tous en admiration.
Il n'y a que toi.
Pour connaître notre cher ami Didier. Franchement, il pose des questions. Oh, il a le talent.
On se croirait. Est-ce qu'on a la réponse?
Ah bah oui, parce que les gens, ils attendent au rendez-vous, au taquet. Franchement, c'est comme si on était sur une scène de théâtre. Vraiment, Didier, toutes mes félicitations.
Parce qu'une question sans réponse, c'est comme un petit Manu qui parle pas, quoi.
Non, mais ils répondent. Et je peux vous dire que les gens, quand Didier pose au téléphone, ils sont tous, ils posent des ils sont vraiment impressionnants. Ils répondent du vraiment clair des débris. On l'applaudit très fort.
Didier.
Hein. Franchement, tout est organisé. Bravo Didier, je peux être très fier de toi.
Merci Manu.
Je t'en prie, quelque chose est bien, faut le dire.
Et saviez-vous que 78% des Français font confiance aux prévisions météorologiques à 24 heures? Mais depuis quand la météo existe, hein?
Ah bah.
Petit Manu nous raconte cette genèse.
Tout de suite.
Chaque semaine, il crypte l'actualité.
Un président américain, monsieur Barack Obama. Donald Trump. Il arrive. Milton. David Bouillet. Joe Cocker. Justin Timberlake. Lady Dada. Sakina. Oui, Kendrick.
Retrouvez Petit Manu et son grand dossier journalistique.
J'ai mangé tous les ravotas.
Quoi?
À votre avis, comment est née la météo? Eh bien, je vais vous répondre. La météo, telle qu'on la connaît, avec ses bulletins, ses prévisions, n'a pas existé. Et son histoire est assez surprenante. Tout en commençant en 1854. On est en pleine guerre de Crimée. L'armée française subit une tempête dévastatrice.
Manu, la Crimée est russe ou ukrainienne?
Attends, je vais te répondre. Tu vas savoir par la suite.
Non, tu me répondras pas.
Tu vas savoir par la suite. Voilà.
Je pense que tu me répondras pas.
L'armée française subit une tempête dévastatrice en mer Noire, détruit une grosse partie de sa flotte. Napoléon III est furieux et demande à ses scientifiques, est-ce qu'on aurait pu faire prévoir ça? Ah, tiens, telle la question. Et bien justement, un astronome français, Urbain Le Verrier, se penche sur la question. Il constate des observations à travers toute l'Europe, reconstruit la trajectoire de de la tempête et réalise en croisant les données de plusieurs pays. On n'aurait effectivement pas pu anticiper. C'est à cette prise de conscience qui va tout changer. Le Verrier convainc les gouvernements européens de créer un réseau d'échange météorologique. En gros, on partage en observation et on peut bien prévoir. Les premiers bulletins météo officiels apparaissent dans la foulée en France, justement. Pour te répondre en question, ça apparaît dans la foulée en France dès 1863. Et dans les journaux. Ah bah ça c'est vieux, ça date d'un certain temps. Et dans les journaux d'abord, puis à la radio dans les années 20. Tu vois comme quoi ça date. Et enfin, la télévision française, à votre avis, ça date depuis combien de temps la télévision française?
Mais pas la télévision, les bulletins les météo. Bulletins,
les, non, et les bulletins de la télévision française, ça date depuis, à votre avis, combien de temps?
Bah du coup, c'est vieux.
Ah ça c'est vieux. Tu dirais quoi?
50 ans.
Et bah ça date. Ah, pas si loin, Marc-Christine, depuis 1945. Eh ouais, donc ça date depuis un certain temps. Tout ce qu'il faut savoir, je sais pas si je t'ai répondu à ta question, Didier.
Très bien.
Mais en tout cas, je vous ai tout dit, vous savez tout.
Merci, petit Manu.
Avec grand plaisir, Didier. Tu me poses une question, je te réponds. Pas loin, bravo, Marc-Christine.
Ça fait 75
ans. Bah ouais, 75 ans. Hein. Comme quoi le temps passe.
Et merci Valentin qui t'a aidé à écrire.
C'est vrai, c'est vrai. Alors, c'est les personnes longues. On dit, on encourage notre cher ami Valentin qui fait vraiment des super chroniques. Valentin, un grand bonjour amical. Hello, hello.
Depuis 1947, la France a connu plus de 40 vagues de chaleur. Canicules, mais aussi tempêtes et autres dérèglements climatiques interrogent désormais le droit du travail. Peut-on exiger d'un salarié qui brave les éléments au nom de la productivité? Quels sont vos droits? La réponse avec Marie-Christine. Loi, réglementation, Marie-Christine vous dit tout.
Et puis, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut pas faire, oh là là, entre nos connaissances et la réalité.
Vous êtes-vous demandé quels codes garantissent la qualité et la sécurité de ces délits incontournables? Eh bien, accrochez-vous, car nous allons explorer ensemble les règles, la réglementation.
On écoute toujours Marie-Christine avec la plus grande attention. Oh là là, l'expérience de la vie, la maturité.
Tempête, canicule, votre patron peut-il vous forcer à braver ces éléments pour travailler? La réponse est simple, non, s'il existe un danger grave et imminent pour votre santé ou votre vie. Il y a un article du Code du travail qui prévoit le droit de retrait. Vous pouvez arrêter le travail sans sanction ni retenue de salaire si le danger est réel. Par exemple, une vigilance rouge, si les axes sont officiellement fermés, que les trains ou métros ne circulent plus, que les vents dépassent les 100 km/h avec risque de chute d'arbres.
Oui.
Même logique pour la chaleur, il n'existe pas de température magique inscrite dans la loi. Mais on considère qu'au-delà de 35 degrés dans un bureau sans ventilation, ni eau fraîche, et autour de 33 degrés pour un travail physique intense, le risque pour la santé devient sérieux.
Et c'est pas mal, 35 degrés dans un bureau quand même.
Hein. Bah c'est surtout une question, je pense que les gens peuvent se sentir mal, avoir peut-être des malaises, quoi.
Ah bah, oui, c'est sûr. C'est sûr.
Faut quand même boire, faut quand même... Il y a de l'oxygène qui passe, je suppose, quoi. C'est pas logique.
Alors, dans ce cas, vous informez votre employeur avant l'heure d'arrivée, vous expliquez la situation, vous joignez les preuves et vous indiquez que vous exercez votre droit de retrait. Et si votre poste le permet, vous proposez le télétravail. L'employeur doit protéger votre santé et adapter l'organisation. Les horaires décalés, le télétravail, le report de réunion, l'aménagement des postes. L'employeur doit agir en cas de canicule, eau portable fraîche à disposition, pause régulière, adaptation des horaires, protection contre le soleil, voire suspension de certaines tâches. Si rien n'est mis en place et que la chaleur met réellement en danger, le droit de retrait peut s'appliquer. Voilà ce que je peux vous dire. Notamment à la Côte d'Azur, on voit bien qu'il y a des gens qui travaillent tôt le matin et tard le soir.
Eh ben merci Marie-Christine. Selon une analyse de l'Organisation internationale du travail, les vagues de chaleur conduisent à une réduction d'environ 2,2% du nombre d'heures travaillées dans le monde lors des épisodes de température extrêmement élevées. Cela équivaut à environ 130 heures de travail perdues par personne chaque année à cause de la chaleur. L'Organisation mondiale de la météorologie estime que la productivité baisse de 2 à 3% pour chaque degré au-dessus de 20. Des recherches universitaires ont montré que les températures très élevées peuvent réduire l'assiduité au travail, notamment dans certains secteurs comme les services financiers ou les industries, où des températures supérieures à 38 degrés ont été associées à une augmentation de l'absentéisme d'environ 15%. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas aller travailler quand il y a une tempête ou la canicule? Kevin ?
Oui, ça m'est arrivé. Après, dans ce cas, ben, je fais du télétravail.
D'accord. T'as déjà appelé pour dire il fait trop chaud, il pleut, je reste
non.
chez moi ?
Non, pas spécialement.
Bon, parce que tu m'as dit oui.
Non, mais après, je travaille quand même, mais en télétravail,
ah
quoi.
Oui, hein. Oui, mais pas à cause de la météo.
Non, pas toujours.
D'accord. Et petit. Bah, non,
non, mais ça m'est jamais arrivé. Mais on sait jamais ce que
ça m'est jamais arrivé de travailler.
Ah si, j'ai travaillé, mais ce genre de circonstances, ça m'est jamais arrivé. On sait pas ce que.
En décalé.
Oui, ils sont très carrés, farceurs. Mais ça m'est jamais arrivé, ce genre de circonstances.
Ponari, ça t'est déjà arrivé s'il y a une tempête, la canicule, d'appeler et de dire je reste chez moi.
Ah bah oui, direct, on se met en télétravail.
Ou alors des fois, quand les métros.
Regardez quand il a neigé.
Ah bah oui.
On reste chez soi, c'est mieux.
Et regardez quand les.
Quand on peut, bien sûr.
Bah surtout s'il y a des problèmes de train.
Ah bah oui, les problèmes de train.
On peut pas faire autrement.
Ah bah oui, il faut prévenir ça.
Ça m'arrive souvent de faire demi-tour d'ailleurs.
Ah ouais. Ah ouais.
Moi, ça m'est jamais arrivé de ne pas aller au travail. Ça m'est arrivé d'être en retard à cause des tempêtes, de la neige, etc. Mais je suis toujours arrivé au travail.
Ah bah moi, je suis comme toi, ça m'est jamais arrivé. J'ai quand même fait des stages, du boulot aussi, ça m'est jamais arrivé.
Tu peux pas travailler de chez toi.
Et moi, je peux pas travailler de chez moi.
Alors, travail est impossible.
Non, et Marie-Christine, ça t'est déjà arrivé, toi, d'appeler l'employeur en disant il neige, il pleut, je peux pas
ça
venir.
Ça m'est arrivé une fois de pas aller à l'hôpital parce qu'il y avait de la neige partout et ça glissait et j'ai pas été au boulot, oui.
D'accord. Bah, tu travaillais à l'hôpital avant.
Ah oui, oui.
D'accord.
Il y a un bout de temps.
Ah non.
Donc là, impossible à circuler.
Bah, dans ce cas-là.
Les prévisions à court terme sont précises à 96-98%, celles de 3 jours à environ 90% et celles de 5 à 80-90%. Mais comment on arrive à prévoir le temps ? Pour répondre à cette question, nous avons Patrick Gallois, prévisionniste à Météo France. Bonjour.
Oui, bonjour.
Alors comment on arrive à prévoir le temps ?
Alors prévoir le temps, c'est en fait simuler un état futur de l'atmosphère. Alors à l'instant T est zéro, donc au moment où je vous parle, on essaye de connaître le mieux possible l'état de l'atmosphère dans ses différentes composantes. Donc l'atmosphère, c'est à peu près la couche d'environ 50 km au-dessus de la Terre, hein, où se passe l'essentiel des phénomènes météorologiques qui nous intéressent. Il y a plusieurs composantes à prévoir, donc la température, la pression, l'humidité et le vent.
D'accord.
Et donc, on essaye de résoudre cet état de l'atmosphère de façon approchée par des calculateurs, des moyens numériques, car on ne peut pas le résoudre de façon exacte. Donc, on essaye par des super calculateurs qui sont de plus en plus puissants d'arriver à prévoir un état futur de l'atmosphère donc le plus loin possible, tout en gardant une précision suffisante. Hein, c'est-à-dire que le modèle, en fait, doit être découpé en petites boîtes suffisamment petites pour qu'on puisse prévoir le temps dans des endroits précis. Qui intéresse la personne qui y habite. Donc c'est le défi que l'on a maintenant depuis quelques dizaines d'années, hein, maintenant près d'un siècle, depuis qu'on a des moyens de calcul numérique, c'est d'arriver à prévoir cet état futur le mieux possible en gagnant à la fois en échéance, donc aller le plus loin possible,
oui.
Et en même temps en précision pour une échéance donnée.
D'accord. Et quels événements font que les prévisions peuvent être complètement fausses ?
Disons qu'une prévision, elle est toujours affublée d'un indice de confiance. Donc à 24 heures, comme vous le disiez, la prévision est en général très fiable, mais il y a des phénomènes de petite échelle qui échappent toujours à notre sagacité. Par exemple, les phénomènes qui peuvent se produire sous un nuage orageux, comme la tornade, sont des phénomènes, et notamment à l'échelle française, sont des phénomènes rares, et qui sont de très petite échelle, hein, souvent c'est inférieur au kilomètre, et qui sont d'autant plus difficiles à prévoir, puisque les modèles les plus fins que l'on utilise pour prévoir le temps sur la France à 24 ou 36 heures, ont justement ce qu'on appelle la maille, c'est-à-dire la taille des boîtes hein, dans laquelle sont découpées l'atmosphère. La taille de la boîte, c'est de l'ordre de 1 kilomètre, donc avec un phénomène qui est plus petit que cette taille de 1 kilomètre, sera plus difficile à prévoir. Donc plus le phénomène est grand, par exemple une grande dépression qui fait plusieurs centaines de kilomètres ou un grand anticyclone qui va recouvrir une partie de l'Europe, sont plus faciles à prévoir plusieurs jours à l'avance qu'un phénomène de très petite échelle comme un orage et a fortiori par exemple un phénomène tourbillonnaire comme une tornade.
D'accord. Et les tempêtes, elles sont plus difficiles à prévoir que la pluie ou la chaleur par exemple ?
Alors les tempêtes ne sont pas plus difficiles à prévoir parce que ce sont des phénomènes donc, qui sont liés aux dépressions et donc elles sont corrélées à la pluie, au phénomène dépressionnaire. Donc c'est le même ordre de grandeur hein, quand on parle de tempêtes, on va dire classiques d'automne ou d'hiver. Hein. Là, il faudrait dissocier les rafales sous orage ou les phénomènes tourbillonnaires sous orage comme les tornades qui se produisent arrivent plutôt en saison estivale, des tempêtes hivernales qui, elles, couvrent un grand domaine comme celle qu'on a pu connaître cet hiver, hein, ça rappelle de Benjamin, de Goretti, et il y en a eu d'autres. Donc ces phénomènes font plusieurs centaines de kilomètres de diamètre, hein, ils concernent plusieurs pays en même temps, souvent, et donc sont des phénomènes que l'on peut anticiper plusieurs jours à l'avance et prévoir précisément 24 ou 36 heures avant leur arrivée.
Et que signifie réellement une alerte météo orange, rouge ?
Alors ces alertes, en fait, ont été lancées par Météo France il y a 25 ans maintenant. Cela faisait suite aux fameuses tempêtes de décembre 99 qui avaient ravagé les deux tempêtes du 26 et 27 décembre avaient ravagé l'ensemble du territoire métropolitain. Et donc suite à cela, on a refondu la procédure à la fois d'alerte des pouvoirs, mais aussi d'avertissement de la population en introduisant cette carte de vigilance avec ses quatre couleurs. Et donc c'est une procédure qui a maintenant 25 ans, qui est très connue et qui a été, diffusé dans l'ensemble des pays européens. Et donc, il permet à 24 ou 48 heures à l'avance, à l'échelle du département et parfois même à l'échelle infradépartementale, d'avertir, que ce soit donc les autorités ou la population, d'un risque météorologique qui est gradué donc en plusieurs couleurs. Donc, en jaune, c'est un risque, on va dire, modéré. En orange, on passe à un stade supérieur. Et pour les phénomènes les plus violents, on a la couleur rouge.
D'accord. Vous utilisez l'IA pour vos prédictions ?
Alors, on commence à utiliser des modèles qui sont effectivement à base d'intelligence artificielle. Bon, c'est encore un petit peu, on va dire, en ébauche, hein. C'est pas, disons, la façon dont on travaille encore le plus fréquemment. Mais en fait, on peut dire qu'on utilisait de toute façon des procédures, tout ce qui est prévision numérique en quelque sorte. C'est une sorte d'intelligence artificielle qui essaye donc de prévoir l'état futur de l'atmosphère. Donc ça fabrique un état futur à partir d'équations, hein, qui régissent les mouvements atmosphériques. Mais il faut savoir que en parallèle à cette production automatique, l'expertise humaine, météorologique, hein, du prévisionniste est essentielle justement pour arriver à faire le tri entre toutes ces sources de données et on va dire choisir le bon scénario, parce qu'on a tellement de modèles de prévision maintenant que le rôle du prévisionniste, c'est à la fois de choisir un scénario, hein, et donc d'en découler après les conséquences au niveau du temps prévu sur la France.
Est-ce que tous les pays ont le même système de prévision ?
Alors le système de prévision, donc partant de ces modèles, donc de ces simulations atmosphériques, est globalement à peu près le même dans tous les pays, mais chaque pays a son propre modèle de prévision qui peut différer, parce que un pays, par exemple la France, va essayer d'avoir la plus grande précision sur son domaine. Donc on va avoir ce qu'on appelle des modèles à maille variable, c'est-à-dire qu'ils seront plus précis au niveau de la France et beaucoup moins précis, on va dire, aux antipodes, par exemple du côté de l'Australie. Donc on va focaliser sur un domaine, les Anglais vont focaliser sur un autre domaine, les Allemands pareil, les Espagnols. Donc on va, disons, interpréter le modèle et le focaliser sur un domaine particulier, avec, selon les climats, aussi des phénomènes qui sont plus ou moins présents et qui seront plus ou moins importants à prévoir. Par exemple, le phénomène neige sera plus important à prévoir dans des climats où les hivers sont froids, que dans des climats océaniques doux comme celui de notre pays.
D'accord. Il y a un pays où les systèmes de prévision sont les plus sûrs ?
Alors après, il y a une sorte de compétition, on va dire, entre les différents services météorologiques nationaux. Donc les modèles sont, comment dire, évalués. On essaye de voir lequel est le meilleur, comment se classe le modèle de tel pays par rapport à tel autre. Mais on ne peut pas dire forcément... Bon, après... On peut penser qu'un pays va obtenir de meilleurs résultats sur son domaine que les modèles des pays voisins. Donc, si on veut savoir le temps sur les États-Unis, il est logique de penser que les modèles américains seront les plus fiables. Et notamment, par exemple, pour des phénomènes typiquement américains, comme les tornades, ils ont développé des outils de prévision propres à eux qui leur permettent d'être plus performants sur ce domaine-là que serait Météo France. Donc, chaque pays a ses spécificités.
Et quelles ont été les dernières innovations technologiques ces dernières années qui ont permis des prévisions de plus en plus fiables ?
Alors je dirais que la prévision numérique, hein, au sens moderne du terme, elle a à peu près 80 ans. En fait, elle démarre un peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale avec les premiers calculateurs, bon, qui à l'époque étaient quand même assez rudimentaires par rapport à ce que l'on connaît actuellement. Alors je dirais qu'il y a deux innovations majeures, c'est la multiplication des moyens de calcul. Et il faut savoir que, par exemple, depuis une trentaine d'années, la puissance de calcul a été multipliée par 10 millions. Donc là où dans le début des années 90, on avait à peu près des calculateurs qui faisaient 2 milliards d'opérations à la seconde, maintenant on est plutôt à 20 millions de milliards d'opérations à la seconde. On appelle ça des pétaflops en langage informatique. Donc il y a cette puissance numérique qui est multipliée de façon exponentielle. Et puis depuis à peu près une cinquantaine d'années, l'arrivée des satellites, le premier satellite Meteosat, c'est en 1977. Et il faut savoir que maintenant, 90% des données qui vont abreuver les modèles numériques de prévision proviennent des données satellitaires. D'accord. Et les 10% restants sont les observations au sol de différentes façons. Mais 90% des données sont des données satellites.
D'accord. Et dernière question, est-ce qu'on pourra imaginer des prévisions fiables à très long terme, plusieurs semaines, dans quelques années, ou c'est complètement impossible ?
Il y a une sorte de limite de la prévisibilité, ce qu'on appelle prévisibilité, ce qui est un terme un peu barbare. C'est du fait de l'aspect un peu turbulent, chaotique de l'atmosphère, ce qu'on appelle l'effet papillon, de façon un peu imagée. On pense qu'au-delà de 15 jours à peu près, il sera... impossible de faire une prévision comme on l'entend, c'est-à-dire une prévision au jour le jour. Donc je pourrais pas vous dire le temps qu'il fera par exemple à Pâques aujourd'hui, même dans 10 ou 20 ans. Oui. À un mois d'échéance, on ne pourra pas faire cette prévision au jour le jour. Par contre, on a un autre type de prévision, ce qu'on appelle les prévisions saisonnières, qui permettent d'esquisser une tendance globale pour le trimestre à venir. Par exemple, dire le printemps risque d'être plus chaud que la normale, ou plus froid, plus pluvieux, ou plus sec. Et là, c'est une tendance globale à l'échelle d'un trimestre, c'est-à-dire sur la période, par exemple, mars, avril, mai. Mais on ne pourra pas dire le temps qu'il va faire dans la semaine du 10 au 15 mai. Donc, c'est D'accord. une autre façon de prévoir, d'envisager la prévision.
Eh ben, merci Patrick Gallois, prévisionniste à Météo France.
Merci à vous.
On consulte le temps qu'il fait pour prévoir notre journée et on oublie parfois à quel point les variations de lumière, de température et de saison peuvent impacter notre morale, notre dynamisme et même notre façon d'interagir. Pour mieux comprendre ces influences et le rôle de la météo dans nos vies, on retrouve tout de suite Polari dans sa chronique Bien-être. Et retrouver la chronique Bien-être...
Bah de Polari, et puis je peux vous dire qu'elle assure, elle nous voit, on est rempli d'émotions, les yeux, on est capté sur elle.
Posez-vous la question, de quoi ai-je besoin aujourd'hui pour être bien avec moi-même ?
Et même des fois, on a failli pleurer d'émotion.
La chronique Bien-être de Ponari.
On consulte la météo presque tous les jours pour oui. savoir comment s'habiller, organiser son week-end, partir en vacances. Mais ce que l'on sait moins, c'est que la météo influence aussi directement notre humeur et notre énergie. Selon plusieurs études européennes, près de une personne sur trois se dit sensible aux variations météorologiques. Fatigue, irritabilité, baisse de motivation, ces changements ne sont pas qu'une impression. La lumière notamment joue un rôle majeur.
Oui.
L'exposition au soleil stimule la production de...
Sérotonine.
Sérotonine, évidemment.
Oh là là.
Bravo,
on l'a dit
Didier.
En même temps, bah, ça, c'est vrai que les gens sont plus à la pêche, sont plus souriants, effectivement.
Ah bah, oui. Il y a la luminothérapie d'ailleurs.
Oui, exactement. Il y a exactement des lumières.
J'ai essayé la luminothérapie.
Ah, bah. Ah, oui, alors.
C'est une source de chaleur en fait qui arrive sur le visage.
Mais ça t'a fait du bien ?
Ça te fait du bien.
Ça fait du bien, mais...
Bon, c'est pas extraordinaire.
Pas plus, pas moins. Voilà.
Mais ça existe effectivement pour ça.
Et le soleil nous permet aussi de prendre une bonne cure de...
Vitamine
de
E.
Vitamine, oh là là.
Voilà.
On le répète.
Ah, c'est pas la E. Non, vitamine
la
D.
La vitamine D. Alors ça, très bonne remarque, cher Kevin.
Et voilà, on a tous des connaisseurs.
Ah bah, ah oui.
On revient à la sérotonine. C'est un neurotransmetteur associé au bien-être et à la stabilité émotionnelle. A l'inverse, le manque de lumière en automne et en hiver peut entraîner ce qu'on appelle un trouble affectif saisonnier. On estime qu'environ 5% de la population européenne souffre d'une forme marquée de dépression saisonnière et jusqu'à 15 à 20% présentent des symptômes plus légers, type baisse d'énergie, trouble du...
Sommeil.
Et oui.
Pas soleil.
Sommeil.
Voilà. Sommeil, effectivement.
Ah, c'est pour ça qu'on mange du chocolat.
Ah,
exactement. Oui. Et la raison qui suit derrière, c'est l'envie accrue de sucre.
Ah ouais, tu m'as devancé un petit chocolat, un petit carré de chocolat.
Non, pas un petit chocolat, un pot de Nutella de 2 kilos.
Oui, mais là, Didier, ça s'appelle de la gourmandise. Et je pense à ton foie.
Non, c'est pas... Ponari vient de dire qu'on avait besoin de sucre.
Ah oui, oui, oui. Est-ce qu'on a fait des statistiques si les Norvégiens, les pays du Nord, consommaient beaucoup plus de chocolat
Ou de sucre, je ne sais pas.
En tous les cas, ils ont des taux de suicide importants.
Ah bah ouais. Oui, non mais je sais, on en a besoin, mais si tu en bouges trop, l'estomac, il y a plus, deux fois.
Mais en même temps, là-bas, ils sont habitués à avoir moins de lumière aussi.
Ah bon, ah ouais, c'est vrai que le temps...
Notre horloge biologique est directement influencée par la luminosité. En hiver, la sécrétion de mélatonine, l'hormone du sommeil, est plus longue. Résultat, on peut se sentir plus fatigué, moins dynamique, et la météo influence aussi notre comportement. Une étude comportementale a montré que l'exposition au soleil augmente la probabilité d'activité physique et d'interaction sociale. Regardez, le printemps, ça nous fait sortir. Et on a envie d'aller courir. Moi, je vois plein de gens qui, ça y est, sont sortis en t-shirt. Et puis, ils vont courir.
C'est agréable.
Bah oui, comme moi aussi.
Ah, tu veux du footing à ce moment-là ?
Bah oui.
Ah ouais, bah... Non, mais ça fait du bien. Ça donne la pêche.
Exactement. Et on sait que 30 minutes d'activité modérée par jour réduisent significativement le risque d'anxiété et de dépression. A l'inverse, plusieurs jours consécutifs de pluie peuvent favoriser le repli et diminuer la motivation à sortir.
Ah bah complètement, oh bah ça.
Mais attention, la météo n'explique pas tout. Des recherches montrent que son impact varie fortement selon la personnalité. Certaines personnes se sentent apaisées par la pluie, plus créatives par temps gris. D'autres ont besoin de ciel bleu pour se sentir dynamiques. En réalité, nous ne réagissons pas seulement au climat extérieur, nous réagissons aussi à notre météo intérieure.
Oh là là.
Le stress chronique, par exemple, amplifie la sensibilité aux variations saisonnières. Un corps qui est déjà fatigué s'adapte moins facilement aux changements de lumière ou de température. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des leviers simples. L'exposition à la lumière naturelle, même 20 à 30 minutes par jour, aide à réguler l'humeur. L'activité physique améliore la production d'endorphines. Et accepter un rythme plus lent en hiver plutôt que lutter contre favorise un meilleur équilibre. Finalement, la météo nous rappelle que nous faisons partie de la nature, nos cycles ne sont pas linéaires et notre énergie fluctue. Le bien-être, ce n'est pas exiger un soleil permanent, c'est apprendre à vivre avec les saisons, extérieures comme intérieures. Parce qu'après la pluie, il y a toujours une éclaircie.
C'est très bien dit.
Et parfois le calme d'un ciel gris est exactement ce dont on a besoin. Donc prenez soin de vous.
Eh ben merci Ponari.
On l'applaudit.
Merci Ponari.
On peut l'applaudir.
Oh oui, oh oui, alors là on te regardait. Et je veux te remercier Didier parce que c'est vrai qu'on est là, on dit chacun les bonnes choses, mais c'est important parce qu'on vit une époque très compliquée. Et pour les gens qui vont peut-être mal, qui sont seuls, et ben une émission comme la tienne, ça donne la pêche, le moral, tu l'as créé.
Bon bah
et,
tant mieux.
Et je crois que t'es quand même le créateur, le monde va le créateur de l'émission. On peut te remercier parce que tu dois faire beaucoup de bien. On te suit, mais t'es le grand chef.
On apprend beaucoup
et franchement, on est très reconnaissant. Et dans le monde, je suis sûr, il y a beaucoup de gens qui te doivent une grande reconnaissance. On t'applaudit très fort, Didier.
Deux personnes.
Oh bah non, parce que ton émission est retransmise sur notre radio. Oui. Il y en a plus, il est modeste. Mais on apprendait des tas de choses et je voulais t'encourager humblement.
Alors après, on applaudit Kevin et Eric aussi.
Ah bah oui,
et
Marie-Christine. Faut pas oublier. On est toute une équipe. Mais c'est vrai qu'on sait pas tout. Et le fait de dire les choses, eh ben on approfondit, on apprend. Faut pas avoir honte, faut savoir le reconnaître. Humblement, évidemment.
Vive Didier.
Ah bah oui, on l'encourage. Et toute l'équipe, généralement.
Est-ce que tu te présentes au municipal ? On vote pour toi.
je me présente déjà dans mon lit ce soir.
C'est important. Le sommeil, c'est important. Mais toute l'équipe générale. Et j'ai comme un petit flash, je dois le dire. Évidemment. Ce qui est bien, il faut bien le reconnaître.
Avant d'ouvrir notre page culture pop avec...
Pop, c'est Eric.
Et musical avec Kevin.
Avec Kevin ? Je me suis pas trompé.
Je vous propose d'écouter un titre issu du quiz de Kevin.
Voilà l'averse qui tombe, il n'y a plus de saison. Depuis qu'on a fait la bombe, Albert Simon.
Aïe aïe, Seigneur Carlos.
Ma grenouille est malade.
Aïe aïe, pauvre Denos.
Et elle n'a plus 20 ans.
Aïe aïe, quelle catastrophe.
Le soleil est en rade.
Elle avait annoncé du beau temps.
Seigneur météo, quand dit qu'il fait bon. Seigneur météo.
meteo, habla grande frigo. Ay, ay, señor meteo, cuando mi transistor esperanza calor y la top. ¡Qué dolor! L'été on s'enrhume facile, c'est depuis les restrictions. On dort en costume de ville. Jean Breton
de Venise à Vesoul.
Oublions le chauffage,
emportés par le fioul.
Ne formons qu'un seul corps,
et de Toulouse à Toul.
Aimons-nous davantage,
l'amour est le seul vrai radiateur.
Señor Meteo, cuando di qu'il fait beau. Señor Meteo, haga grande frigo. Ay, ay, señor Meteo, cuando mi transistor esperanza calor y la tor. ¡Qué dolor!
Madame est là, s'il vous plaît.
Attends la madame à la salita con el señor Carlos a bailar el cha-cha-cha. Que cha-cha-cha es muy sabroso, señor.
À la télévision,
tu annonces la neige.
Tu prends ses précautions.
Je mets mon bermuda.
Si dans tes prévisions,
tu promets le soleil,
je ressens mon parapluie à moi.
Señor Meteo, cuando di qu'il fait beau. Señor Meteo, habla grande frigo. Ay, ay, señor Meteo, cuando mi transistor esperanza calor y la tor. Señor Meteo, cuando di qu'il fait beau. Señor Meteo, habla grande frigo. Ay, ay, señor Meteo, cuando mi transistor esperanza calor y la tor. Señor Meteo, cuando di qu'il fait beau.
Et nous ouvrons notre page culture pop et musicale. Commençons par de la musique. Et oui, la musique fait aussi la pluie et le beau temps. Depuis toujours, les artistes s'inspirent du ciel pour écrire leurs chansons. Il y a la pluie dans l'incontournable Singing in the...
Ah, tata, tata, tata.
Singing in the...
The rain. Ouais, tout à fait. Les claquettes aussi.
Oh là.
Je préfère...
Jenny Kelly
et...
Ou encore Purple Rain du regretté Prince.
Ouais, incomplètement. Et puis un autre chanteur à qui je pense, oh là là, qui a même fait des vidéos pour la cinquième à l'époque.
On peut aussi parler de soleil dans les chansons. On pense notamment au titre Laissons entrer le soleil de Julien.
Julien Doré.
Claire.
Julien Clerc. Ah oui, Julien. Oh. Attends, je me suis trompé, Julien
c'est
Clerc.
C'est pas doré comme soleil, c'est
non,
clair
non,
comme le temps.
Non, c'est vrai, tu Julien Clerc. Et je crois qu'il va repartir en. Il a beaucoup de tournées, Julien Clerc. Oh là là.
Comme le soleil, il tourne.
Ah, complètement, bah oui. Oh, bah ça le, s'il entendait ça, le ferait plaisir, j'imagine. Hein.
Et quand l'hiver s'invite dans la musique, c'est la neige qui tombe sur les partitions. C'est joli, hein.
Alors là, t'as une phrase... façon de dire les choses.
C'est pas de moi, c'est de Kevin, hein. Je tiens à dire...
Bravo Kevin, la façon dont t'as dit ça, bravo.
Alors, c'est le cas de... Quel titre, par exemple? Let it snow de... Let it snow... De Franck.
Franck.
Moi, je préfère rien dire parce que j'ai peur de...
Sinatra.
Ah, c'est Sinatra, oh là là.
Et quelles sont les autres chansons qui évoquent la météo? La réponse dans le quiz de...
Kevin.
Et c'est parti pour le quiz.
Non, quiz. Attends. Comme le cheese.
On cherche à comprendre encore la règle du jeu. Là, je vais me porter sur un truc.
Mais on
commence avec le premier titre. Est-ce que vous avez reconnu le chanteur? Mais oui, Carlos, absolument. Avec cette chanson intitulée, à votre avis,
sur le temps.
Oui.
La météo. Seigneur météo.
Seigneur météo. Pas seigneur. Seigneur météo.
Seigneur, oui, le nom qu'il a donné.
Chanson sortie en 1974.
C'est vieux.
Ah bah oui. C'est pas d'aujourd'hui.
C'était ses débuts.
Voilà. Et est-ce que vous savez qui a écrit cette chanson? Il nous a quittés en 1980.
Nous apprendre.
À l'été 1980.
On sait pas.
D'ailleurs, il a fait un titre en rapport avec la météo, justement.
Ah.
En rapport avec l'été.
Ah, indien.
L'été indien.
Voilà, c'est Joe Dassin.
Bah là, tu nous apprends quelque chose. Alors là, le rapprochement, l'été agréable. Alors là, franchement.
Petit Manu était né.
Ah oui, à la limite, j'ai une autre chance. Quand j'étais petit garçon de Michel Sardou, j'étais encore petit garçon. En revanche, il y a une dame que j'aurais bien voulu voir, c'est sa maman. La psychanalyste Françoise Dolto. Alors là, maman très connue.
Tu veux pas chanter le refrain, Petit Manu?
Ah non, non, pas du tout. Oh non, mais on pense à la même chanson. Oui, et j'aime bien ses chemises à cœur. Bah,
ça t'irait bien de faire une chanson comme ça, Petit
Manu? Ah non, parce que si je faisais ça, j'ai l'impression de copier. Moi, je suis personnel. J'ai un style particulier et je respecte les autres musiques d'autrui. Donc non, non, non. Je préfère l'écouter, quoi.
Alors, vous l'aurez compris, hein, Seigneur Météo, c'est une chanson humoristique qui joue sur la figure imaginaire d'un monsieur météo capable de décider du temps qu'il fera, le tout dans un style festif et décalé. C'est ce qui caractérisait le regretté Carlos qui nous a quittés en 2008. Et dans cette chanson, la météo devient un prétexte pour parler de vacances, de soleil et de bonne humeur.
Et en revanche, il fait beaucoup de vidéos pour la cinquième aussi, des reportages, la pêche. Il parlait beaucoup, bien, il retrouvait son plus grand sérieux.
Eh oui, tout à fait. On passe à une chanteuse, de qui s'agit à votre avis? Voilà, tout à fait, Angoune.
Bravo.
Ça rappelle un son des années 90.
Ah, bah voilà. Ça, exactement. Ah, ouais, voilà. Sorti
La neige au Sahara.
Oui, exactement. Chanson sortie en 1997. Je pense que c'est le tube qui a fait connaître Angoune en France. Hein. Mmh. Vous savez d'où elle est originaire, Angoune?
Indonésienne.
Voilà, exactement, oui. Alors, La neige au Sahara. Dans cette chanson, la neige dans le désert, c'est une métaphore de l'impossible devenu possible. Et dans ce titre, Angoune évoque un amour si puissant qu'il pourrait provoquer un phénomène aussi improbable que la neige au Sahara. Je vous propose qu'on écoute un extrait.
Que j'oublie les jours d'avant, pour que je protège ton corps et ton âme. Des mirages que tu attends. Si la poussière emporte tes rêves de lumière, je serai ta lune, ton repère. Et si le soleil ne brûle, je prierai qui tu voudras pour que tombe la neige au Sahara. Et si la soif nous brûle, je prierai tant qu'il faudra pour que tombe la neige au Sahara.
Et on passe à un duo de rappeurs. Enfin, il y a un rappeur et un chanteur. De qui il s'agit à votre avis?
Je viens de la France où on danse la chenille, où on prend plus de caisses que des crash tests demi. J'ai des potes diplômés,
d'autres qui sont.
Alors bien tenté, là c'est un rappeur qui s'appelle Aurélien.
Ah non,
mais il est connu sous un nom de scène.
Aurélien.
Aurélien. Je crois qu'il y a à Marseille. Il habite à Marseille.
Exactement.
Je l'aime bien.
Et Aurélien avec qui à votre avis? Un artiste belge que vous connaissez tous.
C'est pas Stromae.
Voilà,
Stromae. Ah, j'ai dit au pif, complètement au pif. Voilà. Grâce à tes amis.
Je vous propose qu'on écoute un extrait.
Chez moi, il fait beau, il fait beau, il fait beau, il fait beau.
Je viens de la terre du milieu, où y'a plein de petits vieux, où le chômage et la tisane forment un cercle vicieux, où on critique les invités qui viennent de partir. C'est pas
con... À votre avis, comment s'intitule la chanson?
Bah, il fait beau.
Il fait beau.
Ça aurait pu.
Il fait pas beau. En fait,
alors, il fait pas beau, en fait, c'est ce qu'on dit quand il fait une météo particulière, laquelle à votre avis?
Il y a de l'orage ou un mauvais temps?
Presque, presque.
Je connais pas, je découvre au hasard. Alors là.
Ouragan.
Non, c'est moins fort. Moins fort, oui.
Mauvais temps.
Non, c'est un temps.
Qu'est-ce qui tombe?
La pluie, tout simplement.
Alors la pluie, je sais pas ce que vous en pensez, mais la pluie au printemps et en été, c'est parfois moins désagréable qu'en hiver et en automne.
Ah, c'est clair.
Parfois quand il pleut, quand c'est des petites gouttelettes. En fait, les moments où on est content qu'il pleuve, c'est quand il a fait trop chaud pendant quelques jours. Et quand il se met à pleuvoir, on est content. Surtout en été.
Ah bah oui, ça.
On a besoin d'une température tempérée. Bah,
voilà. Et dans cette chanson d'Orelsan et Stromae, la pluie, elle est utilisée comme métaphore des difficultés et des critiques qui s'abattent sur eux. Et dans cette chanson, la pluie symbolise les obstacles, les critiques et les épreuves liées à la célébrité. Et oui, hein, la célébrité n'est pas toujours facile à vivre. On passe à une chanteuse, de qui il s'agit à votre avis? C'est un titre que vous avez sans doute entendu l'été dernier.
Bien, ça.
Oui, c'est très connu. Ah là là, c'est tout. Vous prenez sur le bout de la langue. Oh là là. Oui. C'est connu, on a déjà entendu.
Alors, la chanteuse s'appelle Louisa, ça vous dit quelque chose, Louisa?
Non.
Et Bleu Soleil. C'est quoi le titre de cette chanson à votre avis? En fait, c'est quelque chose qui est bleu et qui est lumineux.
Le ciel?
Alors presque, c'est un peu... C'est, en fait, c'est un jeu de mots avec ciel bleu, mais c'est quoi la place de ciel? Non, ça a un rapport avec la météo. C'est Soleil Bleu, en fait. Le titre de la chanson, Soleil Bleu, de Louisa. Je vous propose qu'on écoute le refrain. Je pourrais dire, Didier et Marie-Christine, que vous êtes tous les deux dans le thème, parce que vous avez toujours vous êtes tous les deux en bleu.
C'est vrai qu'il y a un bleu,
on est en azur.
C'est ça.
C'est la coïncidence, c'est vrai.
Le petit Manu aussi, il a les yeux bleus.
Marron. Ça apporte la bonne humeur en psychologie, le bleu.
Exactement, oui. Alors, dans cette chanson Soleil Bleu de Louisa, le soleil bleu évoque un univers presque onirique entre rêve, nature et introspection. Et la météo, il devient une image de transformation intérieure, d'émotion et de recherche de lumière dans un monde parfois incertain.
C'est très connu, hein. Le titre, ça prend. On a l'impression qu'on a écouté sans faire même ça. Vraiment. Merci, Kevin.
Eh bien, je vous souhaite plein de soleil à tous. Merci à tous.
Merci Kevin, et on l'applaudit aussi. Tout le monde a eu.
Alors,
on a oublié Marie-Christine. Bravo Marie-Christine. Et en fin d'émission, ça sera Eric.
Évidemment.
On garde les applaudissements pour la fin.
Mais ce que je veux dire, il y a une musique qui
m'est. Et Bonari.
On l'a applaudi tout à l'heure.
On
l'a
applaudi. On écoute les jeux
de notre centre d'équilibre à tous.
Il n'y a pas vous voler. Bravo quand on écoute Bonari, c'est où? Et deux chansons qui me reviennent de Étienne Dao, Duel au soleil. Aussi, ça se passe. Ça m'a fait penser quand t'as passé à
Moi, je pensais.
À Duel au soleil, le grand Étienne Dao. Et à Cher Nicolas. Lui, il a demandé conseil à la lune. J'ai demandé à la lune. Voilà. Ouais. Donc, c'est sérieux. Et Étienne Dao.
La lune, la météo. Bon.
Voilà. Non, mais quand même, on voit Étienne Dao, c'est dans le Haut-Sahara. Il faut avoir une bonne pensée pour Étienne Dao aussi.
Et moi, je pensais à Nicoletta.
Ah oui.
Mort le soleil.
Ah, effectivement. Oh là là, la grande Nicoletta. Voilà.
Mais moi, je suis une vieille.
Donc... Ah non, putain, c'est vrai. Et il paraît qu'elle est super sympa, d'une grande gentillesse.
Et on va écouter un titre en entier, Kevin.
Oui. Eh bien, moi, je vous propose d'écouter Angoun, La Neige au Sahara.
Par exemple.
Partira là-bas, verse d'une sèche de sable et de vent, cet océan jaune et blanc. Perdu dans le désert, tu es perdu dans le désert. Montre-moi ma place sur ces pierres plates, pour que j'oublie les jours d'avant. Je protège ton corps et ton âme des mirages que tu attends. Si la poussière part tes rêves de lumière, je serai ta lune, ton repère. Et si le sang au Sahara, si le désert et le sol venaient à tes doutes, femme de sel, je serai ta route. Et si la soif nous brûle, je prierai tant qu'il faudra pour que tombe la neige au Sahara. Faire tourner ta douceur vers les regrets froids des amants. Si la poussière part tes rêves de lumière, je serai ta lune, ton repère. Si le désert et le sol remettent à tes doutes, femme de sel, je serai ta route. Si la soif te brûle, je prierai tant qu'il faudra pour que tombe la neige au Sahara.
Angoun, La Neige au Sahara.
On termine cette émission par de la culture pop. Le climato-pessimisme est devenu un objet cinématographique ces dernières années. De plus en plus prisé par les spectateurs, les films traduisent certaines angoisses météorologiques de la société actuelle. La pop culture a un grand catalogue de films catastrophes, dystopiques et post-apocalyptiques autour de la météo. Et ce ne sont pas de simples divertissements et manifestations de certains effets de mode. Ils résonnent parfois avec notre réalité météorologique en retirant les effets spéciaux et autres artifices, bien entendu. Eric nous a sélectionné quelques blockbusters du genre avec sa manière bien à lui de faire la météo.
Les climatologues sont incapables d'expliquer
expliquer les causes de ces intempéries, ni leur soudaineté.
Suite à des inondations catastrophiques et à des chutes brutales de température,
le Mexique a fermé sa frontière. Il y a trop de réfugiés américains.
Préparez-vous au direct avec Los Angeles.
Ne faites pas ici.
Voilà ce qui se passe en ce moment.
Ce que vous voyez derrière moi, c'est une tornade. Oui, une tornade à Los Angeles.
Ce truc est gigantesque.
Catastrophe à laquelle
Manhattan est virtuellement
la population est prise de panique. Les gens fuient
par
mille.
Avance sur New York. Fuyez, sauf qu'il faut.
Sauvez le plus de vies possible.
Alors chers amis, je dois bien vous avouer qu'en écrivant cette chronique, j'ai trouvé que la météo aimait beaucoup se la jouer dans les films du genre catastrophe naturelle. C'est quasiment le rôle principal, en dehors des actrices et des acteurs qui, malgré les conditions dans lesquelles ils se retrouvent, sont toujours aussi beaux et sexy. Vive la magie du cinéma, n'est-ce pas ?
Eh oui, maquillage, effets spéciaux.
Toujours un brushing impeccable alors c'est que...
Il fait 230 km de vent, mais bon.
Ce qui est bien, c'est qu'ils sont tous en sueur, tous sales, et puis t'as le baiser de cinéma à la fin.
C'est vrai, tu fais bien.
Il se réveille maquillé, pomponné, comme petit Manu.
Oh non, non,
il se réveille comme une fleur.
Ah oui, mais moi je suis naturel, spontané. Au contraire, j'écoute à grande attention la chronique.
Et même quand il y a un vent à 120 km/h, ses cheveux restent en place.
Ah oui, c'est
la bonne philosophie de Didier.
Il
n'y
a rien qui bouge chez Manu.
Continue, tu laisses pas entraîner mon chéri. On t'écoute avec grande attention.
Alors on pense notamment à l'acteur Jack Gyllenhaal, âgé de 22 ans au moment du tournage où il interprétait le fils d'un climatologue dans un film. Est-ce que vous saurez le reconnaître ?
Alors moi, à part Twister...
Alors c'est un film qui a fait du bruit en 2004 quand il est sorti au cinéma. Et on voit la statue de la liberté sous la neige.
Ah oui,
Le jour d'après,
c'est ça.
Ouais.
Donc en effet, il jouait un adolescent le jour d'après. Donc il avait 22 ans, mais il jouait un adolescent. Hein, voilà la logique américaine. Mais on y croit. Donc réalisé par Roland Emmerich. Et dans le film, un changement climatique imprévu et violent à l'échelle mondiale entraîne à travers toute la planète de gigantesques ravages. Donc inondations, grêles, tornades et températures d'une magnitude inédite. Et vous savez quoi ? Dans le film, il fait même moins 20 degrés à New York.
Ah bon ? Oui. Et une question, ça n'a pas été trop dur pour les comédiens parce que tourner à 20, moi, quoi que tu vas
me dire... Non, mais ils n'ont pas tourné à moins 20 degrés.
Ah oui, non, mais c'est un truc, parce que la façon comme tu le dis, avec tellement de conviction qu'on imagine quoi que maintenant...
Cette année, il a fait bien froid, ils auraient pu tourner.
Enfin, tu le dis avec conviction, c'est pour ça que je me permets de demander...
Tu vois, Eric, tu lui as fait croire
que c'est
moi.
Je pense que je vais me reconvertir. Je vais prêcher la parole.
Non, mais ceci dit, il a une conviction. Maton au cinéma, ça va pas tout croire. Qu'est-ce que tu en penses, mon cher Kevin ?
Bah oui, je suis d'accord.
Voilà, non, mais continue. On t'écoute des grandes attentions, Eric.
Alors, on raconte dans Le Jour d'après, ce film qui est une fiction, que le Gulf Stream, phénomène généré par un vaste système de courants circulaires et de vents puissants, subit un effondrement brutal entraînant une vague de froid paralysant l'hémisphère nord. Bon, on rigole, mais. C'est vrai que Petit Manu n'a pas tort, puisque d'après un article de janvier 2025 sur le site Science et Vie, donc c'est l'année dernière, des recherches récentes mettent en lumière le ralentissement de l'Atlantique Meridional Overshooting Circulation, donc le AMOC. C'est un système clé pour réguler le climat mondial. Alors que l'Europe traverse des épisodes de froid intense, hein, tu l'as dit, Marie-Christine, hein, c'est vrai qu'il fait froid ces dernières années, quand même, un peu plus froid que, enfin, un hiver plus dur que certaines autres années. Il devient crucial d'explorer les liens entre ces phénomènes et les projections climatiques pour comprendre si la fiction pourrait un jour se rapprocher de la réalité.
Ah bah, on peut se poser des questions. Justement, qu'est-ce que t'en penses ? Ta version Ponari qui a une bonne philosophie. Ça t'inspire quoi, Ponari ? Oh là là !
Moi, je fais pas de prévision météo.
Ah mais... oui, non, mais ton esprit critique. Ah bon ? Ton sixième sens, parce que Ponari est extraordinaire. On te demande.
Tu veux remplacer Didier, Manu ?
Ah non, pas Didier !
Je sens que t'as envie de.
Ah non, pas du tout, je me sens inspiré par la chronique.
Mais de rien, c'est contradictoire, parce qu'on nous dit que le climat se réchauffe.
Exactement.
On nous dit que les hivers ont.
Mais c'est pour ça qu'on parle de dérèglement climatique et pas de réchauffement climatique.
Il faut faire la différence.
C'est extrême. Voilà. Ouais. C'est extrême.
Non, je veux remplacer personne.
On voit bien que les éléments.
Après, c'est vrai qu'il y a un réchauffement classique normal de la Terre, enfin, mais accélérée par la pollution. Alors, cela fait froid dans le dos, et c'est le moins qu'on puisse dire. Quand on pense à Snowpiercer, par exemple, vous connaissez...
Le film et la série.
Exactement, voilà. Donc,
et la BD avant.
Ah bah voilà, je vois qu'il y a un connaisseur, je sais pas ce que je vais dire maintenant.
Non mais j'étais content parce que le film, j'ai beaucoup aimé. Ouais, la série, un peu moins, mais elle s'est, comme tu sais, arrêtée. Et je crois que c'est Netflix qui l'a racheté pour refaire la dernière saison, c'est ça?
C'est ça, exactement, ils sont... Donc oui, tout à fait.
J'aime bien quand les séries sont arrêtées et que d'autres la rachètent pour la terminer.
Comme ça, on a une fin, quoi.
On a une fin, c'est bien. On suit. Voilà.
Alors tout à fait, oui. Et à la base, comme tu l'as dit, c'est une bande dessinée, donc en noir et blanc, créée par Jacques Loeb au scénario et Jean-Marc Rochette au dessin, donc qui porte le nom de le Transpercège, donc le train qu'on voit dans la série, le film, et qui offre une vision post-apocalyptique. Donc l'histoire raconte la vie des survivants d'espèces humaines qui sont fermés dans un train gigantesque éternellement après un cataclysme climatique. Le film de science-fiction sud-coréen, comme tu le soulignais Didier, un Snowpiercer, le Transpercège, coécrit et réalisé par Bong Joon-ho, sorti en 2013, exploite l'idée d'une tentative ratée d'une entreprise de géo-ingénierie pour contrebalancer le réchauffement climatique. Ratée puisqu'ils ont envoyé un gaz, le CW7, dans l'atmosphère. Et par la suite, il y a une glaciation de toute la Terre et ça la transforme en boule de neige, quoi, quasiment. D'ailleurs, quand on voit les plans extérieurs, il n'y a que de la neige partout.
Ah oui, donc tout est blanc, entre autrement dit.
C'est ça, voilà. Et ça extermine donc la vie sur Terre ainsi que presque toute l'humanité. Donc on retrouve une série donc, qui compte 4 épisodes. Donc j'imagine la 5e, la dernière, tournée par Netflix, portant le même titre et la même histoire à bord où il y a les guerres de classe sociale, l'injustice sociale également et la politique interne qui sème le trouble. Alors j'ai pas testé, mais il paraît qu'il fait environ moins 120 degrés à l'extérieur du Snowpiercer.
Oui.
J'y crois plus ou moins parce que j'écoute. Bon, après, c'est au cinéma. Peut-être faire la part des choses. Oh là là. 120 degrés.
Et il n'y a pas que le froid que l'on peut craindre, il y a aussi les tornades. On se souvient tous de ce film des années 90 avec Helen Hunt et son équipe. Vous savez de quel film je parlais ?
Twister.
Exactement. Donc il traque
ses. C'est pas le jeu. Hein.
Oui, c'est vrai qu'il y a un jeu.
Il y a un jeu qui s'appelle Twister.
Pour préciser. Ouais.
Emmanuel était bloqué 2 semaines, je me rappelle.
C'est
acrobatique.
Il est bien taquiné, on pardonne à Didier. Tu es sportif.
En fait, c'est une équipe qui traque ces mystérieuses intempéries qui ravagent les plaines américaines. Donc, ces intempéries se manifestent par des tornades, se formant lors d'orages violents, et qui prend naissance à la base d'un énorme nuage, le cumulonimbus.
C'est du latin, j'imagine, ce mot.
C'est de la météo.
J'imagine, je suppose. Tu l'as bien dit, en tous les cas. Bravo, Eric.
Hélas, on apprend dans tout cela que dans Twister, qui est un film qui a connu un renouveau il y a 2 ans, donc en 2024, alors c'est pas vraiment un reboot, c'est une reprise totalement du film. Donc dans cette fiction, on peut constater l'impact du réchauffement climatique sur les tornades, mais les deux films n'en font pas du tout mention. Et la chasse des tornades ne ressemble pas à Twister. Ils ne prennent pas autant de risques quand même. Alors pour terminer, un petit dernier pour la route. Alors celui-là, je l'ai trouvé assez drôle. Et je vais vous faire boire la tasse, puisqu'il s'agit du film d'action Pluie d'enfer.
D'accord.
Qui est sorti dans les années 90. Il ne cesse de pleuvoir sur la petite ville d'Ontenburg. Le niveau de l'eau monte et le barrage situé en amont de la ville risque de céder. Les autorités décident d'évacuer la population. Donc il y a 2 convoyeurs de fond, Tom et Charlie, qui viennent chercher de l'argent de la banque pour le mettre au sec. C'est le moment attendu pour Jim et ses complices bien décidés de s'emparer des 3 millions de dollars qui dorment dans le coffre. Donc, cela fait penser à notre temps national depuis un certain temps où on a l'impression qu'il pleut sans cesse.
Oui.
Donc on revient sur notre élément de départ, le réchauffement climatique. Donc des phénomènes météo classiques, mais dont les pluies gagnent en intensité à cause du réchauffement climatique. Ces dépressions se renforcent en passant au-dessus de l'Atlantique, dont les eaux se réchauffent. Voilà, amis de la pop culture, le temps se couvre et il est temps pour moi de vous laisser. Couvrez-vous bien.
Eh ben merci Eric. Et cette émission sur la météo, c'est déjà fini.
En tout cas, on a appris des tas de choses. Et vous aussi, on espère.
Si vous avez loupé le début de l'émission ou si vous voulez la réécouter, l'émission est rediffusée sur de nombreuses radios dont vous retrouverez la liste sur bigbangstation.fr. On se quitte avec un proverbe, Kevin.
Et je vous cite le proverbe suivant. Après un beau temps, les premiers signes dans le ciel d'un changement sont ordinairement des nuages blancs élevés.
Salut à toutes et à tous. La semaine prochaine, on se retrouve pour un nouveau terme, le Big Bang.
Station, l'univers. Oh là là.
Big Bang tout court.
Bon, mais
je sens que cette émission va être dure la semaine prochaine.
J'étais pas sûr, j'ai tout dit comme ça.
Je sens que petit Manu va partir sur les starting blocks.
Vous aussi, on n'est pas, je suis pas tout seul, je précise.
Toi aussi, hein.
Bah, toi aussi.
C'est toi qui as baptisé.
Bah exactement. Est-ce que
c'est la première fois qu'on fait une émission sur le titre de l'émission.
Est-ce que t'es content, Didier? Est-ce que t'as un homme heureux? On connaît Alexandre le bienheureux. Et ben on a Didier le bienheureux. En plus le titre de son émission. T'as vu, c'est pas mal. On pouvait pas mieux faire.
Et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, fille à l'enfant. Tâchez de lui en profiter.
Okay, let's stop.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
Depuis 1994, vous pouvez entendre sur IDFM Radio l'émission Country and Souvenirs avec Patrick Mullis. Alors n'hésitez pas. Restez branchés le dimanche soir de 19h à 21h pour 2 heures de country music et chaque semaine, vous pouvez gagner un album en envoyant un message à countryidfm@gmail.com. Bonne semaine à tous et bonne écoute surtout. À bientôt.
Retrouvez-moi, Benoît, tous les 2e et 4e dimanches du mois de 23h à minuit pour Grabuge, l'émission métal et musique extrême. Partage ma passion, la musique métal. Rendez-vous des métalleux insomniaques de 23h à minuit, les 2e et 4e dimanches du mois. Grabuge pour le plaisir et bien finir la semaine et dégourdir vos oreilles. Grabuge, tous les 2e et 4e dimanches du mois sur IDFM Radio.